Salut les sportifs, c'est Hermano. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui. Bah, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais te parler d'un truc. Le 13 mai prochain, je serai sur la plage de Bray-Dunes, près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France en courant et en nageant. 1 500 km en 30 jours, à raison de 50 km de course et de 2 heures de nage au quotidien. Je le fais pour moi, mais aussi pour mettre en lumière deux assos. Imagine for Margot et une bouteille à la mer. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien, mais c'est franchement pas facile de courir plus de 150 km par semaine tout en alliant un job à temps plein et une famille à chérir. Et justement, ce qui m'aide à encaisser la charge physique, à mieux me comprendre, à mieux prioriser et à mieux vivre la difficulté de ces situations, c'est une rencontre que j'ai faite au détour de l'enregistrement d'un épisode de podcast. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Mouezza, qui est depuis devenu mon préparateur mental. Pour moi, avant, la prépa mentale, ça relevait un peu du mystique, de l'ésotérique, du trifouillage de cerveau. Mais plus on avance avec Marc, et plus j'en découvre les bienfaits. On travaille sur les valeurs, les besoins, l'équilibre et la définition de mes objectifs, qui me permettent de progresser chaque jour et pas uniquement dans le domaine sportif. Je suis aussi devenu un meilleur professionnel, un meilleur papa et un meilleur époux. Alors, chère auditrice, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc, je t'invite à aller faire un tour sur agri2pa.me/mrc. Tu pourras découvrir le portrait audio de Marc et tous les moyens de le contacter de ma part pour tester son approche. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode un peu spécial du podcast de Nakan. Déjà, on a eu du mal à se coordonner avec Greg, donc au lieu de vous diffuser l'épisode ce mercredi, on vous diffuse ce jeudi et beaucoup plus tard que prévu, parce que normalement c'est le mercredi à 16h, mais là ce sera plutôt jeudi dans la soirée. Mais en dehors de ça, eh bien, je suis toujours accompagné par mon ami Greg Chanez. Salut Greg.
Salut Hermano, comment ça va?
Ça va, autant fatigué que toi, mais moi j'étais pas au même endroit ce week-end, donc on va justement parler un petit peu de tout ça, c'est l'objectif de l'épisode de ce jour.
Ouais, exactement. Parce qu'apparemment, on était sur deux sites Ironman distants en Europe, mais voilà, pas forcément pour faire la même chose, mais...
C'est ça. Bah, quoique...
Une fois, un event Ironman.
Ouais, quoique, on pourra en parler un petit peu de ce que j'ai fait ce week-end, mais j'ai quand même pas mal couru aussi. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on se détend. On prend une bonne respiration. De toute façon, tu pourras pas faire autre chose, parce que si j'ai bien compris, t'es bien claqué. On va parler...
Ouais, ça va mieux maintenant quand même. On est jeudi, ça a laissé quand même quelques jours pour récupérer déjà.
Ouais, donc on va parler de toi et de ta participation à l'Ironman de Thun. On va peut-être refaire un historique très 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 rapide. À la base, Thun, tu devais le courir en 2020, en juillet 2020. Et puis,
ouais, c'est ça. Ouais.
Et puis pour les auditrices et les auditeurs fidèles, ils savent que il y a eu des... Je sais pas, une petite pandémie, ils appellent ça comme ça, une pandémie, un virus qui est venu frapper l'Europe, même le monde entier, et qui a décalé un petit peu ta première participation. Donc, tu as participé l'année dernière, et puis comme ça t'a pas suffi, bah tu t'es dit, allez, je vais remettre le couvert en 2022.
Ouais, en fait, l'idée, c'était que je devais courir en 2020 avec mon pote Christian. C'est un peu mon partner in crime en termes de triathlon depuis 2011, hein, depuis que j'ai rejoint le Tri-Team Lutri. C'est vrai qu'on a pas mal voyagé à travers le monde pour faire des halves, pour faire des Ironman. On était censé courir cet Ironman de Thun en 2020 ensemble. En 2020, ça s'est pas fait. On devait le faire à l'été 2021. Puis ils ont repoussé la date en septembre. Et là, pour Christian, ça jouait plus du tout. Moi, j'étais inscrit. J'ai fait cette course en septembre 2021. Et puis, on en a déjà parlé, on a déjà fait un débrief complet avec mes équipiers du Tri-Team Lutri dans le podcast, donc ça, on en a déjà bien parlé. Et puis, comme Christian, lui, il a reporté son inscription à l'été 2022, du coup, j'ai décidé d'aller participer avec lui à nouveau sur ce parcours que j'ai trouvé magnifique, et puis remettre le couvert cette année.
Alors déjà, peut-être historiquement, moi, il me semblait, bêtement, que l'Ironman... En Suisse, c'était à Zurich, pour le dire à la française. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis dans un monde parallèle ou est-ce que j'ai raison?
Alors, l'Ironman de Zurich en Suisse, c'était l'un des Ironman les plus anciens d'Europe. En fait, si on prend le terme officiel, c'est Ironman Switzerland. Hein. C'est un des events Ironman en Europe qui est des plus anciens. Sauf erreur, ça doit être avec Roth et puis avec Lanzarote, un des trois plus anciens events sur distance Ironman en Europe. Et puis, effectivement, historiquement, il s'est toujours tenu à Zurich, donc la capitale économique de la Suisse, hein, la capitale politique est en Berne, mais la plus grande ville et le plus grand pôle économique de la Suisse est en Zurich. Et puis, il s'est avéré de plus en plus difficile au cours des années d'organiser cette course au centre de Zurich. On imagine que les financiers avec leur Porsche Cayenne goûtaient assez peu aux routes fermées le dimanche pour aller au Mittenkai sur les bords du lac de Zurich. Et du coup, c'était de plus en plus compliqué d'avoir les autorisations pour fermer les routes, pour organiser cet event au centre-ville. Et puis, les organisateurs ont quasiment été forcés de trouver un autre spot pour faire cette course. Et Ironman Switzerland a déménagé à Thun, dans l'Emmental bernois. Il y a justement, la première édition était censée se tenir en 2020, donc il y a 2 ans, et puis elle n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Mais dès que cette course a été annoncée, on connaît la région, hein, on n'est pas très très loin, même si ça parle une autre langue. Et on sait que c'est une région magnifique, et quand ils ont annoncé que l'Ironman se tiendrait là, déjà c'est plus proche de la Suisse romande, et puis c'est une région magnifique. On est allé tout de suite, dès qu'ils ont publié les parcours, voir de quoi il s'agissait. Et là, on a su tout de suite qu'on voulait participer à cette course, en tout cas on était plusieurs au club de triathlon. Donc voilà la raison fondamentalement pour laquelle ils ont déménagé l'Ironman de Suisse de Zurich à Thun.
Bon, alors toi, du coup, tu as fait 2 éditions. C'est bien parce que ça va peut-être nous permettre aussi un petit peu de comparer. Est-ce que déjà le parcours de ce premier Ironman Switzerland qui se tenait à Thun en 2021 et cette deuxième édition en 2022, cette fois-ci en juillet, était identique, que ce soit en natation, en vélo et en course à pied ?
Strictement identique, à la différence près que cette fois-ci, il y avait la distance complète en natation. Hein. On en a parlé l'année passée. Il manquait un bon bout sur la natation sur l'édition 2021 et on n'a jamais vraiment eu d'explication satisfaisante sur le fait que l'organisateur ait coupé près de 800 mètres de natation sur l'édition 2021. Cette année, on était à 3750 mètres d'après ma montre. On va partir du principe que la montre a un petit peu plus déconné que la mesure officielle de l'organisateur et donc que les 3800 mètres étaient parfaitement là. Et puis ensuite, le parcours, alors déjà la zone de transition, la configuration était quasiment exactement la même. Et puis le parcours vélo était rigoureusement identique. Le parcours de course à pied a très très peu été revu. Hein. C'est simplement que pour les raisons Covid, l'année passée, on n'avait pas pu organiser la partie après-course où les supporters pouvaient rencontrer les athlètes facilement à cause du Covid. Il devait y avoir une enceinte fermée pour contrôler les passes Covid pour aller dans cette zone-là. Cette année, il n'y avait plus tout ça, donc c'était plus facile. Donc, on a pu utiliser la place qui était directement derrière la zone d'arrivée, alors que l'année passée, il fallait se déplacer dans un bâtiment juste après la ligne d'arrivée. Mais hormis ce tout petit détail, hein, la ligne d'arrivée était déplacée de peut-être 40 mètres, mais en dehors de ça, rien n'a changé.
Bon, donc c'est bien, ça va nous permettre un petit peu de comparer non seulement tes temps, mais aussi tes ressentis. Donc tu l'as dit déjà, il n'y avait pas la même distance en natation. C'est vrai que là, je suis sur la fiche de Grégory Chanez sur les résultats 2022 et sur les résultats 2021. Il y a une sacrée différence. Donc quand j'ai regardé la dernière fois, je me suis dit mince, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a chopé une bouée, il est resté accroché ou quoi? Mais non, finalement, la réponse, elle est toute simple, c'est qu'il n'y avait pas la distance l'année dernière.
Ouais, alors tout à fait. L'année dernière, c'était très clair. Au moment où je suis sorti de l'eau, que j'ai vu mon temps, j'ai su que ça coïncidait pas, hein, avec l'allure que je pouvais tenir sur une distance pareille, même dans un très bon jour. J'ai toujours eu un petit objectif secret de passer un jour sous l'heure sur Ironman. Ça s'est jamais fait sur les 5 courses complètes que j'ai fait jusqu'à maintenant, sauf justement à Thun, mais il y avait ces 800 mètres en moins et ça aide quand même beaucoup à passer sous l'heure, parce que 800 mètres à mon allure, c'est à peu près 15 minutes, hein, si on prend grosso modo. Donc ouais, ça représente quand même un bon bonus d'avoir 800 mètres en moins à faire. Donc cette année, effectivement, il y avait la distance, on peut pas trop comparer par rapport au temps de l'année passée.
Bon, malgré tout, cette année, tu t'es pas si loin que ça du sub 1h, t'es à 1h08 en natation. Est-ce que ce 1h08, il contient le temps de transition ou c'est vraiment 1h08 dans l'eau ?
Non, c'est sorti de l'eau, hein. C'est vraiment l'arche de sortie de l'eau qui a déterminé le chronomètre, donc effectivement 1h08 dans l'eau, ça correspond à ce que je m'attendais à réaliser. Quand je vois les performances globales, hein, qui ont été réalisées sur cette Ironman, par exemple au niveau des femmes pro, il n'y a pas un panel pro chez les hommes, que j'aime bien regarder parce que je sais à peu près les temps et comparer les temps, mais les femmes pro en général nagent pas beaucoup moins vite que les hommes. Et quand je vois la vitesse en natation, c'était pas mirobolant cette année. Donc je me dis que mon ressenti pendant la natation, à savoir qu'il y avait un courant qui était un peu défavorable sur le retour et donc sur la partie, la ligne droite la plus longue de ce parcours, se confirme. Et puis je pense qu'effectivement, on a eu un petit courant défavorable à ce moment-là. Et ça veut dire probablement que c'était pas une natte très rapide.
Moi, sachant que tu dis que si tu regardes les hommes, en fait, cette année, il n'y avait pas de pro Toon hommes. Il n'y avait que les femmes.
Que les femmes. En fait, c'était un panel femmes pro qui a été quasiment cousu sur mesure pour Daniel Harif. Hein, on ne va pas se mentir.
Ouais, parce que les hommes, ils étaient à Vitoria et pour le coup, je les ai à peine vus parce que ça allait tellement vite que je ne les ai même pas vus passer, en fait. Mais bon, on pourra en parler un petit peu après. Finalement... pas insatisfait de ta natation. Si on débriefe un petit peu épreuve par épreuve, qu'est-ce que tu pourrais ressortir de ta natation? Déjà, quels étaient tes ressentis? Qu'est-ce que tu ressens par rapport au résultat, même si tu nous dis que finalement, tu étais à peu près dans les temps que tu t'étais fixé? La question, le corollaire à tout ça, c'est par rapport à ce que tu as mis en place en termes d'entraînement depuis septembre dernier, donc depuis la dernière édition de l'Ironman de Toon, qu'est-ce que tu peux en tirer comme leçon?
Alors, bon, les auditeurs fidèles savent que je me suis complètement éclaté le coude hein, au début de l'année 2020 et que ça a été très long pour récupérer, que vraiment j'avais les palettes humérales en petits morceaux et que ça a nécessité deux chirurgies, ça a nécessité pas mal de rééducation. Et depuis cet incident, en fait, j'ai pas retrouvé 100% de ma force dans le bras gauche et je le ressens encore maintenant en natation. De deux manières. D'une part, c'est parce que je vais moins vite. Et puis d'autre part, c'est parce que j'ai une nage qui est légèrement asymétrique, non pas liée au fait à l'amplitude de mouvement que je suis capable de réaliser, parce que j'ai quasiment récupéré 100% de l'amplitude de mouvement, mais par contre, parce que j'ai toujours un déficit de force dans ce bras gauche suite à cet accident. Et donc du coup, en natation, j'essaie de nager pas mal pour essayer de retrouver cette force. Donc je fais pas mal de travail en plaquette. Et puis, tout ça s'est fait jusqu'au mois de mai à peu près, au moment où on nageait en piscine. Puis ensuite, j'ai vraiment travaillé l'eau libre et l'orientation parce que c'est des points des fois qui pêchent chez moi, c'est-à-dire que je fais des kilomètres pour rien en visant mal les bouées, etc. Cette année, j'ai eu une trajectoire qui était quasiment parfaite. En tout cas, j'ai pas l'impression et au feeling que j'ai eu au moment et en regardant ma trace GPS d'avoir fait n'importe quoi sur ma partie natation. J'étais vraiment très concentré pour être droit sur les bouées. Donc ça, déjà, c'est un aspect très positif parce que je l'ai pas mal travaillé en eau libre. Et puis, d'autre part, je visais 1h10, tu vois, dans ce parcours. Je suis à 1:08:30, donc pile poil dans les objectifs. Je suis vraiment content. J'espérais pas pouvoir faire mieux. Donc, quand je sors de l'eau et que je vois mon chrono, je me dis bon, ça commence bien. Franchement, je suis dedans là.
Déjà, j'ai une première question qui me vient, mais ça, c'est plus par rapport à monsieur Nakan.ch. Comment tu fais pour avoir une bonne trace GPS alors que tu n'arrêtes pas de nous répéter, que ce soit sur le site ou même dans le podcast, on n'arrête pas de dire que le GPS avec les étendues d'eau, ça marche pas.
Bon, ça marche moyennement bien, mais c'est vrai que là, j'avais la dernière génération de montres de chez Garmin. Hein. J'avais une Forerunner 955 qui est capable d'utiliser le double signal GPS. Ce que j'ai activé sur cette partie natation, c'est vrai que ça rend quand même les traces de natation en eau libre un peu plus clean, un peu plus propre. C'est le cas aussi hein, sur les Fenix 7 ou Epix 2 qui intègrent la puce GPS avec double fréquence GPS. C'est quand même un plus pour avoir une trace qui est clean. C'est pas impeccable, mais c'est quand même nettement meilleur que tout ce qu'on a connu par le passé.
Bon, et quand tu dis que tu as tendance à faire des kilomètres pour rien, quand tu sors en 1:10, ça veut dire que tu as quand même pas mal de très bons nageurs qui sont devant toi. Est-ce que l'objectif, c'est pas justement plutôt de prendre les pieds et puis de rester dans une trajectoire, enfin de te fier à la trajectoire de la traînée d'athlètes qui sont devant toi ou pour le coup, toi, tu fixes ta bouée et puis tu en démords pas?
J'ai arrêté de suivre aveuglément les nageurs qui étaient devant moi après deux expériences un peu mitigées où je me suis retrouvé au milieu de la pampa avec d'autres personnes qui étaient devant moi en se disant « Merde, j'ai suivi quelqu'un aveuglément. » Puis en fait, cette personne-là a visé la mauvaise bouée, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de « Ok, si je vois que la personne que je suis va dans le bon cap, etc., j'hésite pas à prendre les bulles parce que forcément, ça aide beaucoup au niveau de la vitesse et j'ai pas hésité non plus à le faire à Toon cette année. » Mais je ne suis pas aveuglément et je fais ma propre orientation. Même si je suis derrière trois athlètes qui semblent vraiment savoir ce qu'ils font, En fait, on est sûr qu'en vérifiant par soi-même. Et peut-être que ça permet de faire un point de situation sur le cap un tout petit peu moins souvent que si on nage seul, mais c'est important quand même de regarder où on va et d'être sûr de où on va, parce que bah, ça nous fait une belle jambe de suivre quelqu'un si cette personne-là aussi suit une autre personne qui suit une autre personne, et puis si la seule personne référence qui est devant va n'importe où, bah, tout le groupe va n'importe où, et c'est pas si rare que ça arrive. Donc vraiment, conseil pratique, quelle que soit la distance de votre triathlon, hein, que ce soit un mini-tri, que ce soit un half, que ce soit un classique, faites des vérifications sur votre cap, même si vous suivez un groupe.
Tu viens de dire ce que je voulais qu'on entende, c'est-à-dire, de toute façon, on ne le répétera jamais assez, le triathlon est un sport individuel, en tout cas à partir du half Ironman, et du coup, faites votre course tout seul, quoi. Vous fiez pas trop aux autres, parce qu'on ne sait jamais où est-ce que les autres vont, et le problème, c'est qu'après, bah, c'est vous qui en pas tiré, et y compris ceux qui étaient devant vous, qui étaient dans le mauvais cap. Bref, ça c'était sur la partie natation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta partie transition cette année versus l'année dernière? Est-ce que tu as travaillé cette partie-là de l'effort, et est-ce que tu en as ressenti les bénéfices?
Alors, j'ai pas travaillé du tout la transition, en fait. Après 10 ans de triathlon, la transition natation-vélo, franchement, je la travaille plus. J'ai évidemment, dans les jours qui précèdent, bien préparé ce que j'allais faire en termes d'ordre, en termes de changement, de matériel, etc., des trucs techniques que j'avais à faire pendant ma transition. Je savais que j'avais ma crème solaire pour en remettre dans la nuque, parce qu'avec le frottement de la combi pendant 3,8 km, sinon j'allais cramer. J'avais préparé tout le matériel que j'allais prendre. Comme j'ai utilisé le dernier compteur de Garmin sur mon vélo, bah, je savais que je l'avais dans le sac de transition. Je ne l'ai pas laissé sur le vélo dans le parc, parce que je n'avais pas envie de me le faire tirer juste avant le départ. Et donc voilà, je savais tous ces trucs que j'avais à faire, dans quel ordre, pour ne pas me retrouver tout à coup, par exemple, hein, avec un compteur cycliste dans une main, avec des gels et des barres dans l'autre, et puis tout d'un coup, tu dois fermer les chaussures, et après, tu dis « Ah mince !» et tu dois tout reposer, recommencer, reprendre. Et puis voilà, donc vraiment faire les choses dans le bon ordre, et c'est ce que j'ai fait, mais j'ai quand même pris mon temps sur un Ironman. C'est important chaque minute, mais je veux dire, c'est pas aussi crucial que sur un short ou sur un classique. Si tu perds 2 minutes sur une transition, c'est un triathlon qui va durer 11 heures, 12 heures, donc voilà, il n'y a pas 30 secondes à sauver ici. Il faut faire les choses dans le bon ordre, mais surtout il ne faut pas oublier de les faire, parce que si tu pars en ayant oublié un truc sur ton vélo, ça peut être catastrophique.
Ouais, puis de la même manière, tout simplement, tu pars en oubliant de te rebadigeonner de crème solaire, si c'est sur un distance olympique, voire même sur un M, bon, ça peut encore passer. En plein mois de juillet, que ce soit à Thun, à Vitoria ou en Afrique du Sud, sur 180 bornes, aussi rapide que tu sois comme cycliste, t'en as minimum pour 4h30. Si tu remets pas de la crème solaire, tu risques de finir comme une tomate.
Ouais, t'es cramé. Donc clairement, moi j'en mets avant de partir en natation, hein, avant d'enfiler la combinaison, j'en mets déjà une bonne couche. Au niveau des jambes, notamment, il n'y a pas énormément de crème qui va partir avec la combinaison si on en a mis assez le matin. Mais c'est vrai qu'au niveau du visage, au niveau de la nuque, au niveau voilà, des endroits où ça frotte un petit peu avec la combinaison, les poignets par exemple, éventuellement, eh ben, faut pas hésiter à en remettre à la transition, parce que ce serait moche d'abandonner pour cause de cramage de soleil à un moment ou un autre de la course. Et c'est vrai que le parcours vélo, bah, on est sur du vélo de route, hein, donc il n'y a pas d'endroit où on est parfaitement protégé. On est toujours exposé à du soleil à un moment ou un autre du parcours. À Thun, c'était quand même une grande partie du parcours où on était en plein cagnard. Sans crème solaire, tu tiens pas.
On a parlé de natation, on a parlé de la transition. Bah maintenant, on va parler de ce qui se passe après la transition, donc le vélo.
Ouais, le vélo cette année, c'était un petit peu particulier, parce que j'ai fait une performance vraiment inattendue l'année passée. Et donc, du coup, c'était un petit peu la pression de savoir est-ce que j'arriverais à rééditer ça, en fait.
Ouais, parce que effectivement, j'étais en train de regarder encore tes temps. Là, tu fais presque 20 minutes de plus que l'année dernière pour un parcours qui visiblement semble similaire. Après, c'était pas la même période. L'année dernière, c'était en septembre. Cette année, c'était en juillet. Est-ce qu'il y a les conditions climatiques qui ont joué? Est-ce qu'il y a les conditions de vent qui ont joué? Ou est-ce qu'il y a les conditions de forme, tout simplement? L'année dernière, tu avais atteint un certain pic de forme et tu étais prêt pour le vélo. Cette année, peut-être un peu moins. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Déjà, ce que je peux te dire, c'est que l'année passée, j'ai donné un jour de feu sur le vélo. C'était probablement le jour de l'année où il fallait que je parte sur cet Ironman pour la partie cycliste. Je sentais pas les jambes. Je pouvais mettre le nombre de watts que je voulais. J'étais tellement bien que j'avais même pas peur de partir en sur-régime dans certaines montées ou voilà. Cette année, c'était plus compliqué quand même parce que d'une part, il faisait un peu plus chaud, même si à la sortie de l'eau, t'as la fraîcheur du lac, parce que c'est quand même un lac de montagne, donc il était quand même relativement frais, hein, à peine à 18 degrés. Tu nages certes avec la combi, mais tu passes quand même une heure et quelques dans de l'eau à 18, donc t'as bien frais. Ensuite, tu sors, ta trifonction, elle est mouillée, le temps que tu partes avec l'air frais du matin qui sèche encore la trifonction, donc ça te rafraîchit bien. J'ai pas eu froid, hein, mais j'avais vraiment pas chaud sur le début du... pas trop chaud, en tout cas, sur le début du vélo. Mais par contre, après, plus la journée avance, plus il commence à faire chaud, et forcément, ça impacte les performances, et il fait quand même un soleil, même s'il a pas fait des températures absolument abominables à Thun cette année. Le soleil de juillet est quand même plus agressif que le soleil de septembre, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a un deuxième paramètre surtout, c'est que depuis plusieurs jours à Thun, eh bien, il y avait un vent thermique qui se levait en milieu de matinée, et là, il était défavorable, en fait, sur la partie très roulante de ce parcours, et notamment lors du deuxième tour, on s'est pris un vent de face sur la partie très roulante, alors que le vent était vraiment dans le sens contraire l'année passée. Et il était plus favorable sur cette partie-là. Et puis, l'année passée, il était plus défavorable dans les parties en montée où c'est peut-être un tout petit peu moins grave d'avoir du vent de face. En tout cas, moins dommageable au niveau de la moyenne. Cette année, c'est vraiment sur la partie où on construisait les 35-36 km/h sur la première boucle pour arriver avec une bonne vitesse avant de commencer les petites montées. Et ben là, cette année, au deuxième tour, tu te prenais du vent dans la figure et tu étais facilement 3-4 km/h en dessous. Et donc, du coup, forcément, ça fait vite baisser la moyenne.
Bon, donc du coup, 5h53 en vélo, ça te fait quoi ça comme moyenne ?
À peine plus que 30, hein, puisque 30 km/h c'est 6 heures, donc là j'étais à 30,3 km/h de moyenne, sauf erreur, sur mon compteur, ça doit être à peu près ça. C'était l'objectif hein, pour moi cette année quand même, de rentrer le vélo en moins de 6 heures. Je savais que les conditions seraient différentes et qu'elles seraient probablement plus difficiles que l'année passée. Et puis j'avais comme objectif de faire un meilleur marathon, et donc je me suis dit, quitte à perdre peut-être 10 minutes sur le vélo, mais à avoir des jambes un tout petit peu meilleures sur le début du marathon, n'allons pas comme un fou sur le vélo. Mais malheureusement, avec ce vent, j'ai quand même dû mettre pas mal d'énergie sur la partie cycliste pour rentrer ce vélo quand même en moins de 6 heures.
Tu nous dis que l'année dernière, il y avait moins de distance sur la natation. Tu nous dis que l'année dernière, tu avais des jambes de feu sur le vélo. Avant qu'on parle de la partie course à pied, donc de la transition vélo course à pied, j'aimerais justement qu'on revienne sur cette quatrième discipline, cette deuxième étape de la quatrième discipline, la transition. L'année dernière, tu nous fais une transition de malade, à peine 2 minutes pour passer du vélo à la course à pied. Comment ça se fait que cette année tu fasses le double, c'est-à-dire 4 minutes 30? T'as été placé beaucoup plus loin dans le parc, t'as perdu une chaussure, le temps que tu décroches ton compteur et que tu le remets dans ton sac de transition, il s'est passé quoi là, Greg?
En fait, il s'est tout passé exactement la même chose que l'année passée, à l'exception d'un petit besoin naturel avant d'entamer le marathon.
D'accord. Un petit besoin naturel qu'on imagine tu n'aurais pas pu soulager sur la route, donc c'était pas un petit pipi, quoi.
On va rester élégant dans ce podcast. On va juste dire que c'est un besoin naturel qui a nécessité le temps supplémentaire que tu as listé tout à l'heure. Avant de partir sur le marathon, quoi.
Bon, ça va, ça veut dire que t'es rapide quand même. Bref, on arrive sur la partie course à pied. Bon, tu dis que t'étais pas tout à fait... ton objectif, c'était d'être plus rapide que l'année dernière. Finalement, c'était pas un objectif tout à fait rempli. Au final, tu fais 55 secondes de plus que l'année dernière. Donc, c'est pas si mal que ça, quoi.
Ouais, mais bon, déjà, l'année dernière, j'avais vraiment l'impression d'avoir subi ce marathon, et en particulier ce dernier tour de course à pied. Et là, j'avais vraiment l'intention d'être solide jusqu'au bout de ce marathon. Et puis, comme tu m'avais demandé, qu'est-ce que tu as changé à l'entraînement cette année, j'ai mis vraiment beaucoup plus l'accent sur la course à pied et notamment sur des sorties plus longues. J'ai vraiment allongé les sorties, j'ai fait plusieurs sorties de 27 km dans des endroits très vallonnés autour de chez moi, en mettant vraiment de l'intensité type course iron sur certaines parties, vraiment pour avoir ce rythme dans les jambes, pour essayer de m'approcher le plus possible de ces 4 heures sur marathon. J'ai peut-être un petit peu sacrifié quelques entraînements de vélo pour essayer vraiment d'arriver à faire un marathon solide. Et donc du coup, je pose le vélo un petit peu en retard par rapport rapport à l'année d'avant. Je sais que j'ai fait une moins bonne performance sur le vélo, mais je me dis, bon, peut-être que j'ai réussi à économiser un tout petit peu plus mes jambes et peut-être que sur le marathon, ça va aller mieux. Maintenant, il y a aussi eu sur le vélo le fait que j'ai eu un petit peu de peine à m'alimenter en solide sur la fin du vélo. Peut-être que je manque aussi déjà de glucides, on en a beaucoup parlé avec Denis, hein. J'ai vraiment suivi les conseils en essayant de regarder la composition de mes barres et de mes boissons pour me rapprocher de ces 60 à 90 grammes de glucides par heure que nous recommandait Denis. J'ai essayé de faire ça sur vraiment tout le vélo, mais sur la deuxième partie du deuxième tour, c'était très compliqué pour moi d'avaler du solide et puis... bonne chance pour assimiler 60 à 90 grammes de glucides en faisant que de la boisson. Et donc du coup, voilà, j'arrive au début du marathon. J'ai un entraînement qui est meilleur en course à pied, mais je vois tout de suite dans les 3 premiers kilomètres que j'arriverai jamais à tenir l'allure que je m'étais fixée. Hein. J'avais prévu de partir à 5,20 au kill. C'est pas non plus une allure mirobolante, c'est une allure qui est solide au départ pour essayer d'aller chercher ces 4 heures parce que je rappelle que 4 heures, c'est 5,40 de moyenne hein, sur marathon. Pourquoi je décide de partir à 5,20 et pas à 5,40 ? C'est parce que sur un marathon d'Ironman, faire un négatif split, à moins de s'appeler Yann Frodeno, je ne sais pas comment ça se fait, comment ça se passe et qui arrive. On sait qu'à partir du semi-marathon ou un peu plus tard, on s'écroule vraiment au niveau de l'allure. Donc, il faut avoir un peu de marge pour partir. Donc, je m'étais dit 5,20 et je me suis entraîné vraiment pour tenir ces 5,20 sur terrain plat. Le marathon ne présente aucune difficulté à tout. Quand j'ai commencé à courir, j'étais déjà proche des 5,30 et je me rapprochais très rapidement des 5,40. Donc, j'ai su assez vite qu'il faudrait tenir et aller au bout, mais que l'objectif de ces 4 heures, il serait de nouveau... pas atteignable.
Bon, moi, je parle pas forcément d'expérience parce que je suis jamais monté sur distance Ironman, on en a déjà parlé. Je suis monté sur des 3/4. Mais peut-être que, autant je suis d'accord avec toi, le négatif split sur Ironman, c'est très compliqué. Mais pourquoi pas envisager une stratégie qui serait justement les 3, voire les 5 premiers kilos, les faire plutôt à 5,40, voire 5,45, et puis accélérer un tout petit peu de 5 secondes en 5 secondes jusqu'au 15e. Et à partir du 15e, là, soit tu stabilises, soit tu reviens un petit peu en arrière pour ralentir un peu. Est-ce que tu ne crois pas que ce serait une stratégie peut-être qui pourrait être sympa ? Alors, non pas pour aller chercher un négatif split, hein, encore une fois, mais plutôt pour les premiers kilos, ménager tes jambes, te remettre droit, te débloquer en fait tout ton corps parce que sur Ironman, surtout sur un parcours comme ça, t'es sur prolongateur quasiment tout le temps et donc t'es plié. Tu passes d'un sport qui est porté à un sport non porté. Tu soumets à ton corps à nouveau toute la charge, tout son poids et puis en plus tu commences à tirer bien plus fort sur les jambes. Donc est-ce que tu crois pas que ça pourrait être une stratégie qui pourrait éventuellement aider si ce n'est être payante?
Alors, je sais pas, tout le monde est différent. Forcément qu'il y a peut-être d'autres qui ont d'autres avis. Pour moi, c'est pas possible parce que ce qui me fait horriblement mal sur un Ironman, et en particulier sur le marathon, c'est les changements d'allure. Et pour moi, c'est pas envisageable de partir à une allure et de me dire je vais accélérer après parce que l'allure que je vais prendre au départ, ça va être très compliqué ensuite de l'améliorer. Donc, c'est pour ça que ma stratégie de course, c'était vraiment de partir à 5,20 pour faire le premier tour, ensuite de baisser gentiment vers 5,30, 5,35 sur le deuxième et puis approcher les 5,40, 5,45 sur le troisième pour arriver à une moyenne qui soit proche des 5,40. Accélérer, je l'ai dit, c'est très compliqué, en tout cas pour moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu t'arrêtes à une table de ravitaillement pour prendre ton ravito, tu repars. C'est déjà difficile de repartir à l'allure que tu avais quand tu es parti. Donc, si tu devais repartir encore plus vite, pour moi, ce serait quasiment impossible. Enfin, ce serait, j'irais à l'explosion assez rapidement. Donc, c'est vraiment pour ça et me connaissant, parce que tu m'as demandé sur la transition 1 si je la travaillais à l'entraînement, je la travaille jamais. Mais par contre, la transition 2, je l'ai pas mal travaillée. Et c'est vrai que tu enchaînes jamais des longues distances en course à pied après avoir fait 180 bornes de vélo. Donc, en fait, ça, tu le découvres vraiment le jour de la course. Mais par contre, ça m'est arrivé d'enchaîner après des 130, 140 km de vélo. Bien sûr que c'était pas non plus un marathon, hein. C'était du 10-12 km. Mais vraiment, essayer de tenir cette allure sur 10-12 km. Mais c'est très différent en fait de faire l'entraînement et de faire la course. Et là, j'avais un niveau d'énergie, un niveau de fatigue, probablement aussi lié à ce problème d'alimentation hein, qui faisait que j'y arrive juste pas. Et je pense que peu importe quelle était ma stratégie, L'année passée, j'avais une stratégie complètement différente, hein, puisque j'étais parti exactement en même temps que Grégoire, un autre collègue du Tri-Team Lutri, qui court beaucoup mieux que moi. Il est parti à 5 au kill de moyenne, et je l'avais suivi sur le premier tour. Et ensuite, j'avais complètement explosé. Et donc, ça m'avait amené à ces 4h17, quelque chose sur le marathon. Et puis, je me suis dit, cette année, je ne vais pas faire cette erreur, je vais partir plus tranquille. Et puis ensuite, légèrement être dégressif au niveau de l'allure jusqu'à la fin. Mais dès le début, je n'arrivais pas à tenir l'allure fixée parce que je n'étais pas dans les mêmes bonnes conditions que l'année passée sur le début du marathon.
Bon, alors tout ça, cette année, ça te fait un temps de 11h32 et 39 secondes. L'année dernière, tu étais sur 10h51 et 39 secondes aussi. Donc ça tu l'as maintenu. Bon, on l'a compris, les conditions n'étaient pas forcément les mêmes parce que l'année dernière, tu avais une natation qui a été écourtée. Là, tu as souffert un petit peu plus sur le vélo. Tu as subi la course à pied. Pour toi, après coup, vraiment là, ça fait 4 jours, 5 jours, une fois que tu peux analyser un petit peu tout ça, surtout avec ta casquette de coach certifié Ironman, si tu devais, eu égard l'entraînement, mais si tu devais remettre ça demain, qu'est-ce que tu changerais pour pouvoir améliorer encore ton temps? Alors, on est bien d'accord, en fait, quand je te dis on remet ça demain, c'est pas avec la fatigue accumulée, hein, c'est, t'as appris quelque chose, demain, c'est 6 mois après, 1 an après, qu'est-ce que tu changes pour améliorer tout ça?
Tu sais, un entraînement d'Ironman, il se passe jamais comme prévu, en tout cas pour une personne comme nous, hein, qui a une vie privée, qui a un travail, qui a des aléas météo, parce qu'on peut pas aller s'entraîner en Australie quand il faut, et puis revenir sous des contrées où la température est plus clémente pendant l'été, etc. Donc il y a des aléas, il y a des choses qui se passent pas comme prévu, et ça fait partie du truc. Maintenant, j'ai suivi un entraînement qui était proche de ce que j'avais prévu à la base, je me suis retrouvé avec ces difficultés-là, mais pour aller un peu plus loin dans la réflexion, je pense qu'il y a des personnes qui sont très très capables de gérer de A à Z leur Ironman, j'en fais pas partie. Cette distance-là, pour moi, pour mes capacités sportives, elle est trop longue. Et donc, du coup, je subis beaucoup la course, surtout à partir du kilomètre 130-140 de vélo. Même si j'arrive à poser le vélo encore en bon état, je sens que je suis quand même fatigué. Ensuite, c'est compliqué de courir. Et donc, du coup, voilà, même avant de faire cette course, je savais qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Et puis, qu'après 5 tentatives, j'en arrive toujours aux mêmes conclusions. Quand je vois certaines personnes qui disent « Ouais, j'ai bien géré jusqu'au kilomètre 35 de la course à pied », j'ai même moi au kilomètre 35, c'est mon système nerveux qui courait à ma place, quoi. J'avais même plus d'ordre à donner à mes jambes, elles couraient toutes seules, mais voilà, à l'allure qu'elles voulaient. Et je contrôlais plus rien, j'avais plus aucune gestion de rien du tout. Et donc, je pense pas que c'est une question de volume d'entraînement, parce que je suis assez convaincu. Bon, bien sûr que je peux améliorer mon temps de quelques minutes, voire de même de quelques dizaines de minutes, mais après, il y a aussi le feeling et le fait de savoir que je contrôle pas tellement, je suis pas tellement en gestion sur ce genre de distance, et que la distance qui me convient beaucoup mieux, c'est le half, et que j'ai fait mes expériences sur Ironman, et je savais déjà avant de partir pour Thun que ça avait de grandes chances d'être ma dernière distance complète. Et maintenant j'ai un peu cette certitude dans ma tête, c'est que j'ai un petit peu fait le tour. J'ai plein de conseils à donner à d'autres personnes qui pourraient avoir la motivation d'aller sur cette distance, parce que j'ai de l'expérience sur cette distance, parce que j'ai appris plein de trucs. Mais après, il faut aussi savoir admettre qu'on est fait pour quelque chose ou on n'est pas fait pour ça. Moi, j'adore le triathlon. Je vais continuer à faire du triathlon, mais je sais que je ne suis pas trop fait pour l'Ironman.
Bon, moi, ce que je te propose, c'est de faire une 6e tentative sur Ironman. Par contre, on va passer un coup de fil à Marc Mouezza, qui est un préparateur mental qu'on a déjà eu sur le podcast à 2 reprises. Et peut-être que lui, il pourra t'aider, parce que j'ai l'impression que c'est quand même au-delà de l'entraînement, et je ne vais pas revenir là-dessus encore une fois, moi je n'ai pas l'expérience que tu as et je ne suis pas du tout certifié coach Ironman, donc en plus je ne crois pas avoir droit de citer là-dessus, mais par contre ce que j'entends entre les lignes, c'est que tu te fixes des barrières, en fait tu as des croyances limitantes. Je ne suis pas fait pour l'Ironman, c'est pas un truc pour moi, c'est trop long, je ne sais pas gérer. Est-ce que justement, en travaillant un petit peu là-dessus, tu crois pas que tu pourrais améliorer, alors si ce n'est ton temps, au moins ton ressenti, ton impression de ne pas subir à partir de 130-140 km de vélo?
Bien sûr que je peux rentrer un vélo de 180 km facile, mais du coup, dans beaucoup plus de temps. Et puis après, c'est toujours très compliqué de calculer le ratio, quel temps est-ce que je peux me permettre, entre guillemets, de perdre sur le vélo. pour que ce soit bénéfique sur la course à pied. Je veux dire, j'ai des croyances limitantes peut-être, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que je suis un excellent coureur à pied. Tu ne pourras pas me faire avaler que j'ai les mêmes capacités que quelqu'un qui court 2,35 sur marathon à sec et puis 3h10 sur marathon d'Ironman. Je veux dire, il suffit de voir comment je suis constitué et puis on le saura très très vite. Et voilà, donc... J'ai pas abdiqué et dit voilà, je suis pas fait pour cette distance après mon premier, je l'ai pas dit après mon deuxième, je l'ai pas dit après mon troisième, j'ai commencé à le penser après mon quatrième et maintenant j'en suis convaincu. Donc, j'ai quand même eu le temps de faire des essais, des tentatives de rectification dans l'entraînement, dans la stratégie de course. J'ai eu des stratégies de course complètement opposées entre Thun l'année passée et cette année. Et puis, finalement le résultat à la fin il est quand même le même et donc du coup, après, toute pensée positive, parce que ne va pas croire qu'au niveau mental j'ai pas travaillé ça, ne va pas croire que si j'avais pas eu du mental j'aurais marché à partir du kilomètre 12 sur mon marathon. Non, c'est pas un facteur limitant ou de me dire le matin de la course je vais pas y arriver, hein. Moi j'ai la conviction que cette fois-ci je vais tout péter, mais pour tout péter il faut les jambes et à partir d'un certain moment sur le marathon, je ne les ai pas. Et pourtant, cette année, j'ai déployé de grands efforts à l'entraînement pour essayer de les avoir. Je pense que plutôt que de facteurs limitants, je pense que là, toi, tu me parles d'obstination et de persévérer dans un truc qui est fondamentalement pas fait pour moi et je n'ai pas envie de faire ça. Et d'autant plus que après il y a plein de personnes qui manifestement continuent sur Ironman, tant et mieux, parce que Ironman a réussi à vendre le rêve ultime d'Hawaï, et il y a plein de triathlètes autour de moi dont le seul objectif triathlétique c'est d'aller à Hawaï. Il y a deux manières d'aller à Hawaï, hein, en gros. Enfin, il y en a trois, mais pour la troisième, il faut énormément d'argent. En achetant un slot caritatif proposé par la Fondation Ironman, mais dans les deux moyens admissibles pour le commun des mortels, le premier, c'est d'être très fort et d'aller chercher un slot sportif, donc en finissant dans les X premiers de sa catégorie d'âge en fonction du nombre de slots alloués. Et la deuxième solution, c'est de réaliser 12 Ironman complets et de participer à la loterie pour aller participer à Hawaï. Donc la première option ne m'est pas possible, hein, je veux dire génétiquement, physiologiquement je suis pas fait pour aller gagner dans ma classe d'âge un Ironman. Il suffit de regarder le premier dans ma catégorie d'âge et mon temps, je veux dire, avec toutes les pensées positives du monde, t'arriveras pas à me faire gagner près de 2 heures sur un parcours comme celui de Thun. Donc, c'est juste pas possible. Et puis j'ai pas envie de m'envoyer 12 Ironman, parce qu'il m'en resterait du coup encore 7, j'ai pas envie de m'envoyer 7 Ironman où je prends pas de plaisir pour aller participer à un championnat du monde qui ne me fait pas rêver. Personnellement, mon rêve d'Ironman au tout début, quand j'ai découvert la distance, c'était Lanzarote. Je l'ai fait 2 fois. Je suis très fier de ce que j'ai accompli à Lanzarote. J'ai réalisé mon rêve, entre guillemets, hein, sur la distance Ironman. J'ai plus rien à prouver à personne là sur cette distance. Et puis, je vais me concentrer sur une course que j'aime pratiquer, sur laquelle je m'éclate. Et voilà, ce sera probablement la distance half.
Bon, juste pour préciser, hein, je te parlais pas d'obstination ou autre, c'était juste, je te proposais de mettre le curseur peut-être sur un autre paramètre pour voir si éventuellement ce paramètre-là pouvait jouer aussi bien dans la prépa que dans l'atteinte de ton objectif, c'est-à-dire je parle pas d'objectif de temps, mais simplement d'un objectif de prendre du plaisir et de ne pas subir à partir d'un certain moment. En tout cas, je trouve que tes paroles sont très rassurantes, elles sont pleines de réflexion, et puis elles sont plutôt encourageantes aussi pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être se disent je prends pas de plaisir sur telle distance, cette distance là elle est pas faite pour moi. Malgré tout, il y a quand même des moyens de prendre du plaisir sur des disciplines enchaînées, notamment sur le triathlon, quelle que soit la distance. On le rappelle, ça va des plus petits qui sont des découvertes où on nage 250 mètres, on roule 10 km et on court 2 km jusque l'Ironman, voire même jusqu'au multiple d'Ironman. Il y en a qui font 2, 3, 5, 10 Ironman enchaînés l'un derrière l'autre et puis qui trouve un certain plaisir, soit dans le dépassement d'eux, soit vraiment dans un plaisir sportif à nager, courir, rouler. Donc, le triathlon est fait un peu pour tous, pas pour moi, mais pour tous.
Non, mais une grande variété de distances, et je pense que c'est important de trouver la distance sur laquelle on a du plaisir, parce que je veux bien croire qu'un professionnel, il ne peut pas se contenter du circuit Half Ironman, parce qu'il n'y a pas la même renommée, la même médiatique que sur le circuit complet, et puis les championnats du monde de Half, t'as beau les gagner, on retiendra le nom du vainqueur d'Hawaï ou de Saint-Georges, quand les championnats du monde ont lieu à Saint-Georges, mais enfin bref, c'est très différent, mais moi je ne suis pas payé hein, pour faire de l'Ironman, j'ai payé près de 700 balles pour participer à Toon, donc je veux dire voilà, c'est un truc sur lequel j'ai pas envie de m'infliger des trucs dont j'éprouve plus de plaisir, ou en tout cas où je vois plus d'intérêt dans quelque chose qui est censé être ma passion et qui est censé me déconnecter du boulot et du reste de ma vie. Et donc du coup voilà, je pense que tu as raison de dire qu'il faut trouver sa distance, et c'est pas parce qu'on performe sur Ironman et pas sur d'autres distances qu'on est meilleur que celui qui performe sur half ou sur sprint ou sur distance classique ou sur d'autres disciplines comme du swimrun ou d'autres. Je veux dire, il y a une variété de sports à enchaîner, pas forcément du triathlon, hein, mais entre le swimrun, le duathlon, il y a plein de disciplines aussi qu'on peut découvrir, parce que tous les triathlètes ne sont pas forcément des nageurs confiants et performants, et donc du coup on trouve aussi des disciplines sans natation. Bah voilà, autant trouver le truc qui nous fait plaisir et s'épanouir là-dedans.
Bon, alors très rapidement, parce que il nous reste 2 minutes, donc on va essayer de boucler rapidement. On n'a pas parlé plus que ça de la partie alimentation. Est-ce que tu avais la même stratégie que l'année dernière? Tu nous as parlé de liquide, de solide. Est-ce que tu t'alimentes avec des barres, des gels, de l'alimentation que tu prépares toi-même? Qu'est-ce que tu mets dans tes bidons? Est-ce que tu te bases sur l'alimentation qui est présente lors des ravitaux sur l'Ironman auquel tu as participé? Quelle est ta stratégie là-dessus?
Depuis quelques années, en fait, je me ravitaille sur la course à pied avec les gels Morten, que je trouve très très bien, parce qu'ils induisent pas trop de lassitude au niveau du goût sucré, et puis ils ont tendance à passer même dans les conditions les plus difficiles. D'ailleurs, j'ai quand même réussi à m'en envoyer un sur le marathon, même quand tout était en vrac là en bas. Et donc voilà, ça c'était un des points positifs. Et heureusement, en plus, cette année, c'était, bah, comme l'année passée d'ailleurs, à Toon, les gels officiels qui étaient distribués sur les points de ravitaillement. Donc, je n'avais pas besoin de me surcharger avec ces gels-là, puisque je savais que j'en trouvais à tous les postes de ravitaillement, et sur le vélo et sur la course à pied. Donc, ça, c'est principalement pour la course à pied. Mais là, j'en ai déjà utilisé sur le vélo, puisque les autres alimentations que j'avais choisies ne passaient pas forcément sur la deuxième partie du deuxième tour vélo. Et puis, au niveau du liquide, j'essaye de tester les boissons qui sont fournis par l'organisateur. En l'occurrence ici, c'est du Gatorade. Moi, j'ai pas vraiment de préférence au niveau des boissons. C'est vrai que je pars en général avec ma propre boisson, mais je fais quelques entraînements avec celle de la course. Comme ça, je sais qu'au ravitaillement, il n'y a pas de surprise dans ce que je vais boire. Après, c'est toujours délicat parce que les bénévoles qui donnent les boissons, et notamment l'ISO, eh bien, le diluent des fois de manière un petit peu différente, et tu peux te retrouver parfois avec une concentration très différente d'un poste de ravitaillement à l'autre. Mais bon, bon gré mal gré, on se retrouve quand même avec une boisson qu'on a travaillé à l'entraînement, si on a pris soin de lire l'athlète guide et de savoir quelle boisson serait distribuée. Et puis pour moi, c'est pas tellement un souci. Et puis sur le vélo, bah, les barres, effectivement, je prends des barres de céréales de différentes marques pour essayer de varier un petit peu les goûts, l'intensité en termes de sucre et tout ça. Et puis normalement, ça passe bien jusqu'à la fin du vélo. Puis là, à Toon, bah, peut-être à cause de la chaleur, l'estomac a décidé de se mettre un petit peu en vrille un peu avant. Mais j'ai pas forcément de marque à recommander autrement que les gels. Franchement, j'ai testé vraiment pas mal de trucs, et ceux qui me conviennent le mieux, c'est les gels Morten.
Bon, en tout cas, on l'a dit, toi t'étais à Toon ce week-end, moi j'étais à Vitoria, pas pour participer mais pour encourager des copines et copains qui sont triathlètes, et notamment Olivier de Scooter du podcast Devenir Triathlète, qui est, avec qui je co-anime ce média. Et ce que j'ai remarqué, je suivais 10 athlètes, 10 amis, plus Léon Chevalier, qui est un triathlète professionnel français, plus Yannick Matejicek, qui est un triathlète amateur français, qui gagne pour la deuxième fois en groupe d'âge à Vitoria. Et tous sur le vélo à partir de la fin du deuxième tour et demi de vélo, parce que à Vitoria c'est 2 tours et demi, 2 grands tours et une petite boucle, et tous ont commencé à avoir des problèmes intestinaux à partir de la fin de ce deuxième tour, et tous ont eu du mal vraiment sur la course à pied. Donc peut-être que ça vient de l'alimentation, peut-être que ça vient de la chaleur, peut-être que ça vient de ce triathlon qui n'était pas placé au même moment que les années précédentes, parce que Vitoria l'année dernière c'était en septembre. À voir, toi aussi Toon c'était en septembre l'année dernière, donc il y avait peut-être ça qui jouait aussi. Et par rapport au ravitaillement, je voulais juste le préciser, toi tu parles de boissons qui sont diluées à Toon, le Gatorade qui est dilué par les bénévoles. À Vitoria, il y avait aussi du Morten, mais les boissons Gatorade, en fait, ils filaient juste la poudre aux athlètes, et c'est les athlètes qui faisaient leur mélange directement sur le vélo. Donc voilà, regardez bien l'athlète guide pour savoir un petit peu comment est-ce que vous allez pouvoir gérer votre ravitaillement, parce qu'on le répète systématiquement, déjà on ne teste jamais rien en course, et ensuite lisez l'athlète guide, ça vous évitera effectivement de vous surcharger avec de la nourriture, de l'alimentation, du matériel. Parfois il y a des choses qui sont données par l'organisation. Bah écoute Greg, je pense qu'on a fait un beau tour. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, une note d'espoir peut-être pour celles et ceux qui font l'Ironman ou qui vont bientôt faire un Ironman cette année, parce qu'on est qu'au mois de juillet, donc la saison ne fait que commencer, ou est-ce qu'on en reste là pour aujourd'hui?
Non, moi je pense que ce qui est important, c'est de réaliser ses rêves et ses objectifs, quelle que soit la distance, je le disais, hein, que chacun trouve sa distance. C'est pas parce que je dis que je plafonne maintenant sur Ironman que j'ai pas énormément de plaisir quand je regarde sur les 5 Ironman que j'ai terminés. Je suis très très content de les avoir faits, ça m'a apporté énormément sur le plan sportif, personnel, sur mes connaissances. Ça m'a aussi apporté énormément sur la confiance que je peux avoir en moi quand je réalise un triathlon quel qu'il soit. Ça apporte beaucoup d'expérience aussi pour les autres disciplines sportives. C'est vraiment une super expérience de vie. Là, sur 10 ans, j'ai réalisé 5 Ironman. Personnellement, je suis assez fier de ça. Et puis, que chacun et chacune fasse ses expériences. Il faut essayer. Si vous êtes sur triathlon et que vous hésitez à faire de l'Ironman, lancez-vous. Il y a plein de coéquipiers de club qui ont couru en même temps dimanche sur l'Ironman de Toon. C'était leur premier. Quand je voyais leur joie à passer la ligne d'arrivée, ça me ramenait 10 ans en arrière sur la ligne d'arrivée de Lanzarote en 2012. Et c'est vrai que peu importe à quel point on en a chié, on est tellement fiers de soi quand on arrive à cette ligne d'arrivée que ça vaut la peine d'être vécu.
Bon, écoute, c'était un beau message d'espoir pour terminer. On vous le rappelle, si vous avez apprécié nos épisodes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, une petite review. Évidemment, du 5 étoiles si c'est possible. Et puis, le podcast et le triathlon ne valent que s'ils sont partagés. Alors, n'hésitez pas à partager tout ça à toutes vos connaissances, soit qui ne sont pas encore mis au triathlon mais qui souhaitent le faire, soit à des triathlètes chevronnés qui voudraient soit s'améliorer, soit monter sur la distance Ironman. Greg, je te remercie encore pour ce bon moment passé avec toi, comme d'habitude. On a 4 minutes de retard sur l'horaire, donc je vais te laisser filer. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, pareil, rendez-vous la semaine prochaine.
Ouais, à la semaine prochaine. Merci, Hermano.
Ciao.